Juninho qui a tout pouvoir sportif.
C'est rigolo, ça fait plaisir.
C'est marrant, mais j'ai l'impression que je vais avoir du boulot avec lui.
Comme si le sauveur était là.
La priorité, ça part sur la défense centrale.
Là, j'avoue que je ne sais pas quoi faire.
Cette équipe manque d'agressivité.
Mais qu'est-ce que je vais faire ici?
C'est une équipe qui fait pas mal à leurs adversaires.
Je ne sais vraiment pas où je vais.
J'espère en tout cas qu'il va pas arrêter.
Ça promet, hein. Ça promet.
L'actu lyonnaise donc ce soir autour du nouvel homme fort lyonnais bien sûr, Juninho. Son chantier est-il finalement plus important que prévu? L'actu lyonnaise c'est notamment la recrue brésilienne Jean Lucas qui devrait arriver en début de semaine prochaine. On parle de 8 millions d'euros, un pari a priori pour Juninho. Alors entre ces recrues à potentiel, des joueurs pas si faciles que ça à faire partir, et puis l'inexpérience donc du duo Juninho-Silvinho, a-t-on c'est bien
toi,
mesuré?
C'est toi Jean-Louis qui...
Qui?
Jean-Lucas, c'est pas Jean-Louis en français?
Bah non, c'est Jean-Lucas, je pense.
Ouais. Mais bon, c'est juste pas Jean-Lucas.
Jean-Louis,
t'as vu des gens qui s'appellent Jean-Lucas?
Jean-Luc.
Non, peut-être. Mais Jean-Lucas non plus.
C'est toi qui as signé. C'est pas ta
à nous alors. Pas devant la défense, qu'est-ce que tu veux bien?
Ce serait pas bon signe.
Il a mis Touzard sur le banc.
Ouais, ce serait pas bon signe. A-t-on bien mesuré le nouveau chantier lyonnais? Est-il plus important que prévu? 32-16, appelez-nous pour en débattre. On retrouve Édouard G, notre correspondant à Lyon. Salut Édouard.
Salut à tous.
Salut Édouard.
Salut Édouard.
Est-ce qu'on peut lister les chantiers du moment de Juninho?
Alors, il y a déjà de l'argent qui rentre, encore 1 million à l'instant, puisque les Lyonnais transfèrent un jeune Elisha Owusu qui est du centre de formation à 1 million d'euros du côté de la Gantoise. Ça fait désormais 51 millions d'euros qui sont rentrés dans l'escarcelle et chez le banquier de l'OL après Ferland Mendy, notamment avec ses 48 millions. Du coup, il y a déjà de l'argent qui peut être utilisé en plus des droits de la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Alors, il y a un vrai faux suspense à mes yeux, c'est au sujet du gardien de but pour Anthony Lopez, qui est en contrat jusqu'en juin 2020. On a suivi la conférence de presse cette semaine du président de l'OL qui semblait un petit peu chafouin. J'ai reçu ses conseillers, j'étais un petit peu déçu qu'il ne soit pas là, le gardien de but lors de ces négociations. Est-ce qu'il peut partir libre en juin 2020? Non, il faut absolument qu'on trouve une solution, sinon dès cet été il faudra partir. Mais j'ai l'impression que cet épisode, ce feuilleton, j'en ai déjà vu des épisodes pour d'autres, tout simplement parce que dès le lendemain, Jean-Michel Aulas sur Twitter a évoqué une augmentation de salaire de 50% pour son gardien. Il dit qu'il est très attaché à Anthony Lopez. Anthony dit qu'il est très attaché au club. Les échanges sont cordiaux. Bref,
donc ça va bien
à mon avis, tout va bien se terminer. Le vrai cas épineux, c'est Nabil Fekir. Parce que là, il n'y a pas de son, pas d'image. Lui veut vraiment partir. L'année dernière, il avait failli partir du côté de Liverpool. Mais là, pour l'instant, il n'a plus vraiment d'agent à ma connaissance. On l'a vu avec Jorge Mendes à l'aéroport de Bron il y a quelques semaines de cela. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a signé avec cet agent? Là, on n'a pas vraiment d'informations. Du coup, là, il y a un vrai cas épineux, savoir s'il va rester ou pas. Lui, en tout cas, veut partir et on lui ouvre la porte. Donc là, vraiment, il y a ces départs-là. Et puis, il y a la question concernant Tanguy Ndombele. Va-t-il ou non partir? Alors, en conférence de presse mardi, Jean-Michel Aulas disait la réponse, elle viendra peut-être par l'arrivée, regardez, d'un jeune prometteur. Alors, est-ce que l'arrivée de Jean Lucas, c'est ce jeune prometteur? Parce qu'avant le départ de Ferland Mendy, il y avait l'arrivée d'Héritier de Jong, qui est un jeune du centre de formation du PSV, mais là, c'est toujours la post-formation. Voilà pour toutes les pistes actuelles. Donc, il faut trouver un latéral gauche. Felipe Luis, il a déjà un fan club à Lyon et un président de fan club, c'est Jean-Michel Aulas. Le problème, c'est qu'il veut prendre son temps pour donner une décision. Et là, du côté de l'OL, on voudrait assez rapidement être fixé. Défenseur central, je serais tenté de dire défenseur centraux, qu'il faudrait parce que Morel est parti. Parce que Marcelo, est-ce qu'on veut le garder ou pas?
Tu en parlais de Koscielny, j'ai vu aujourd'hui.
Voilà, ce sont nos confrères de l'équipe aujourd'hui qui parlent d'une proposition de contrat pour Koscielny. Mais ça voudrait peut-être dire là qu'il y aurait un départ de Marcelo. Ouais. Y a Felipe Luis, donc j'en ai parlé. Et puis... on parle aussi, moi j'ai lu dans la presse italienne de Joachim Andersen, qui est un Danois de la Sampdoria de Gênes, ce serait 18 millions d'euros. Voilà, il y a beaucoup de chantiers.
Ouais. Beaucoup de chantiers donc pour Juninho. Est-ce qu'on a bien mesuré? Et tiens, juste avant de poser la question, on se demandait qui aurait le pouvoir à Lyon. Est-ce que Jean-Michel Aulas prendrait du recul et laisserait Juninho prendre la plupart des décisions? Là, sur quelques jours, on se rend bien compte qu'Aulas est toujours là et que c'est lui qui prend les décisions.
Non, mais celui qui pensait que Jean-Michel Aulas allait se retirer pour laisser les autres décider. Celui-là ne connaissait pas bien le président de Lyon. Après, qu'il donne de la latitude à Juninho, je pense que c'est normal. Juninho doit faire ses preuves, aussi. Il va pas lui donner le carnet de chèques du club, alors que Juninho, dans sa carrière extra, après football, n'a encore jamais travaillé une minute, entre guillemets. Donc il faut aussi, je pense qu'ils veulent l'encadrer. Juninho fait partie d'un projet à long terme, mais il faut l'encadrer.
Ouais, après, oui, si ça. Jean-Lucas arrive, ça ressemble à un choix du duo Silvinho-Juninho, hein. Dans le sens des départs, effectivement, peut-être que Jean-Michel Aulas a encore la main. Dans le sens des arrivées, ça semble être le
après,
travail.
Je sais pas, Edouard, il peut peut-être nous renseigner un peu plus là-dessus. Mais moi, je suis surpris. Il parle du gros chantier, c'est derrière. Mais quand on fait des projections éventuellement sur l'équipe de l'année prochaine, on voit donc ce 4-3-3 avec Depay et Traoré sur les côtés. Mais je comprends pas parce que l'entraîneur et Juninho ont dit qu'il fallait être beaucoup plus fort à la transition défensive. Mais si tu laisses ces deux joueurs-là, qui sont les deux joueurs, entre guillemets, les plus nuls sur la transition défensive, attention, je dis pas que ce sont pas des bons joueurs ou des mauvais joueurs, j'ai juste que leur qualité, elle ne se situe pas sur la réaction défensive à la perte du ballon.
C'est quoi, se replacer et défendre?
C'est pas se replacer. C'est par exemple tout de suite aller au pressing.
Il le faisait dans certains matchs. Hein.
Oui, dans certains matchs.
Est-ce qu'ils vont, avec ce nouveau coach et avec les nouvelles données, est-ce qu'ils vont être réguliers à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que sur certains matchs,
Traoré, je sais pas, mais Depay, il l'a pas fait quand il avait Van Gaal à Manchester United. Il le fait pas quand il arrive à Lyon. Je sais pas pourquoi il le ferait maintenant. Mais après, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises.
Le problème, c'est que tu te retrouves devant quelque chose de contractuel où tu as des mecs qui voulaient peut-être partir, qui avaient peut-être été d'accord de partir, mais qui n'ont pas eu de proposition. Que ce soit Depay, que ce soit Fekir. Donc tu peux repenser ou faire une annonce quand tu signes en disant nous, on va travailler donc, sur la transition défensive. Mais après, tu te retrouves avec des obligations contractuelles qui t'empêchent ou qui t'obligent à revoir ta situation.
Oui, mais tu vois, c'est ça, moi, qui me dérange un peu. Dans ce monde du football d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est la com, c'est presque, je dirais, 80% du travail. Alors qu'avant, ça, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années en arrière, ça représentait quasiment rien. Aujourd'hui, ils arrivent, ils disent, voilà, on veut faire ci, on veut faire ça. Pour après, peut-être qu'on s'entend dire oui, mais on n'a pas eu les propositions pour ces joueurs-là, ils sont obligés de rester, on est obligés de faire avec.
Politicien, en tout cas.
À un moment donné, moi, et puis ça dépasse le cadre du foot, c'est aussi la société actuelle. Moi ça me saoule un peu qu'on soit toujours sur de la forme et jamais sur le fond. On l'a vu avec la politique sur les européennes, on est toujours sur la forme, on n'est jamais sur le fond. Et le fond, non mais le fond, c'est ce qui fait que tu comme un pays va se pérenniser, enfin comme un pays va créer des emplois sur un long terme, et ben un club c'est pareil. Un club s'il travaille que sur la forme, sur le long terme il sera jamais bon.
Alors c'est pas parce que rien n'est public que rien n'est fait, hein. Parce que pour l'instant Juninho est au Brésil, donc il va revenir vendredi prochain, donc ça se travaille un petit peu à distance. Et c'est vrai que par exemple la piste Jean-Lucas ou Lucas, elle nous est arrivée comme ça rapidement, mais par le Brésil, et on n'avait jamais entendu parler de ce cas à Lyon, par exemple, dans un délai court. Donc ça veut dire que peut-être ils travaillent sur des pistes, et peut-être que Memphis, ils sont peut-être en train de travailler sur une piste pour un départ. Voilà, il y a aussi une donnée à l'heure actuelle, c'est que c'est pas parce que on ne sait rien qui ne se fait rien par derrière.
J'ai deux questions dans une. Pour Edouard, en fait, savoir si c'est parce que le prix de Nabil Fekir est trop important qu'il ne trouve personne. Et l'autre question, c'est pour toi, Willy, qu'est-ce que tu fais si Nabil Fekir, ça ne va pas?
Nabil, je crois, il s'est séparé de Jean-Pierre Bernès et maintenant il faut trouver quelqu'un pour.
Oui, mais je veux dire, quel est le montant de transfert?
On va le dire vulgairement, on s'en branle à la rigueur de se séparer d'un agent ou pas.
Au niveau des réseaux. Mais est-ce que les personnes qui peuvent l'entourer
aujourd'hui les réseaux c'est bien.
Non, mais elle n'est pas là, ma question.
Francky a posé deux questions, on répond à aucune.
Oui, mais aujourd'hui les réseaux c'est bien, mais aujourd'hui Fekir, il fait plus rêver en Europe, malheureusement.
Donc on fait quoi,
donc c'est trop cher.
Il a pas de club, il a dit qu'il voulait partir absolument.
Pour moi Fekir aujourd'hui c'est trop cher par rapport au prix demandé.
C'est quoi, le prix demandé? C'était ça la première
question. Non mais aujourd'hui Fekir il a basculé dans la, il est plus un espoir, il est plus un joueur qui va arriver au pic de sa forme. Fekir aujourd'hui il est malheureusement, parce qu'il a eu des blessures et je pense que son croisé l'a coupé dans son élan, malheureusement ça arrive.
C'est quoi, c'est 40 millions de transferts?
Mais c'est même moins, mais c'est même moins.
Ils attendent combien pour Fekir?
Je ne connais pas, moi j'ai lu à un moment donné que même 15 à 20 millions ils étaient prêts à...
Mais bien sûr, voilà. Parce que aujourd'hui il y a la problématique aussi du salaire.
Là il n'y a pas d'offre à 15
millions. Il y a le salaire. Ouf. Qu'est-ce que tu vas économiser? Non mais regarde Jean-Louis, oui. Qu'est-ce que tu vas économiser si demain tu vends 15 millions Fekir? Alors on va peut-être dire 15 millions c'est pas beaucoup.
Il y a le salaire.
Mais qu'est-ce que tu économises aussi, hein. Sur l'année de contrat qui arrive,
oui.
L'année chargée.
C'est quoi l'année
plus
chargée?
Plus l'éventuelle problématique de le voir partir libre dans un an. Donc tu vois c'est...
Donc attends, Edouard me répond aussi, quelle est l'année chargée de salariale chargée de Fekir, tu la connais?
Ça doit être 400 000 net par mois.
400 000, donc on est à 4-5, donc 7-8 millions, ouais. 7-8 millions par an.
Et vous avez Mapou aussi, par exemple.
Edouard, tu parles net d'impôts ou net de charges?
Net de charges.
Net de charges,
ouais. Pourquoi tu nous parles de Mapou?
Parce que Mapou, par exemple, est encore en un an de contrat jusqu'en juin 2020.
Et ma prochaine question.
À 300 000 euros par mois.
Excusez-moi, il y a Jean-Jacques Bourdin, le bœuf, qui pose plein de questions à tout le monde.
Non mais maintenant, c'est pour ça, je vais attaquer la deuxième avec Willy. Maintenant que on sait qu'on va, en fait, 10-15 millions, ils vont pas le lâcher, Lyon. Donc, qu'est-ce que tu fais d'un gars qui, pour la deuxième année consécutive, est obligé de rester à Lyon? Comment tu gères ça?
Non, mais si à ce prix-là, je pense qu'il peut le lâcher parce qu'il y a une parole.
Oui.
Je
suis d'accord avec toi, Edouard.
Bon, imagine, il part pas. Il n'y a pas un club qui fait une proposition.
D'accord avec quoi, pardon?
À 10 ou 15 millions, il y a des clubs qui le prendront.
Il n'y a pas d'offre, visiblement.
Bon, alors, il n'y a pas d'offre. La ville fait qu'il reste, la deuxième année qu'il reste, qu'est-ce que tu fais?
Tu lui enlèves le brassard et puis tu le mets sur le banc, puis c'est tout. Tu veux pas le faire jouer,
Ça fait cher.
Non mais ils ont l'air de pas vouloir le faire jouer.
400 000 par mois.
Ils ont fait pareil avec Gourcuff, ils font pareil avec Yanga Mbiwa. C'est voilà quoi.
Non, mais on parle de Fekir en Ligue 1. On parle de n'importe qui. Fekir, non, mais... il a prouvé. Alors certes, cette saison, c'était pas bon. Même si on a vu quand même sur certains matchs. D'ailleurs, les meilleurs matchs de Lyon, c'était quand Fekir était au mieux de sa forme. Hein. On pense au match de Ligue des Champions contre Manchester City. Et là, on nous dit Fekir, on va le mettre sur le banc. Déjà, dans le vestiaire, je sais pas comment ça peut être pris.
Ah, mais ça, c'est leur problématique à Silvinho et Juninho.
Et la deuxième chose, c'est qu'en Ligue 1, Nabil Fekir. À 100% de ses moyens, bien évidemment, il peut faire beaucoup de bien. Avoir un Nabil Fekir dans son effectif.
Il est même pas on parle même pas du talent de Fekir. On sait que son talent est énorme. On parle depuis maintenant, quand même, une période assez longue, de l'inconstance de Fekir.
Oui.
Qui fait que l'inconstance de Fekir dans ses performances a refroidi les grands clubs. Les grands clubs, ils veulent des joueurs qui soient bons 8 fois sur 10, très bons. Une fois et moyen une fois.
Mais ça correspond aussi à une mentalité du club, parce qu'on voit Edouard qui nous répond, Edouard est très proche du club, que certaines fois Depay se replace. Donc ça, c'est rentré dans la mentalité en fait lyonnaise, où certaines fois devrait suffire à faire à peu près à devenir une star quoi, et à être accepté comme un bon joueur. Mais certaines fois c'est pas suffisant, et c'est tout le problème des Lyonnais, c'est qu'ils sont bons certaines fois.
Oui, mais ce qui est sûr, Juninho justement, il veut changer.
Non, mais il veut changer, mais c'est difficile de changer de mentalité quand t'as un vestiaire qui fait que certaines fois, et ça fait des années qu'on dit que c'est que certaines fois.
Oui, mais parce que le problème c'est qu'ils ont pas trop changé les joueurs, ils ont gardé les mêmes joueurs, les Fekir.
Donc les y a deux. Un sacré chantier.
Voilà, c'est la problématique, c'est s'il reste au club, oui, ça va être un vrai caillou dans la chaussure.
Nabil Fekir, comme tous les champions du monde, a quand même une année difficile, on va dire. Et puis c'est vrai qu'il y a un équilibre de vestiaire. C'est ce qu'a dit Bruno Genesio à la fin. Hein, je crois que dans la passation de pouvoir entre guillemets entre Bruno Genesio, qui se sont vus avec Juninho le lundi avant la conférence de presse de fin mai, il y a cette question d'équilibre de vestiaire sur l'investissement. Mm-hmm. Que tout le monde soit au même niveau au même moment, et ça peut changer.
Oui. Avant de te libérer, qu'est-ce que peut changer le rapprochement avec l'ASVEL pour l'OL?
Donc ça va être annoncé demain. Donc l'OL va rentrer dans le capital de l'ASVEL. Donc ça va bien évidemment rapporter des moyens supplémentaires pour l'ASVEL, et du côté de l'OL, il va falloir construire une salle à côté du groupe Amas Stadium. Donc à terme, ça peut faire rentrer un petit peu plus d'argent encore de façon récurrente dans le club. Et puis Tony Parker devrait, si c'est confirmé demain en conférence de presse, aider l'OL dans son développement à l'étranger, notamment en Chine et notamment aussi aux États-Unis où l'OL voudrait implanter à terme une franchise de foot féminin.
Il a qu'à remplacer Fekir, Tony Parker. Il est libre. Bah, il est libre en fin de là où c'était. Ouais,
bon. Merci Edouard. À toutes les infos merci, autour Edouard. De l'OL sur rmcsport.fr. Minute Le Boeuf.
Ah. Qui c'est qui va venir jouer dans notre club? C'est Franck Le Boeuf, le champion du monde.
C'est beau ça.
Bah oui.
Ah bon, c'était extrait des tuches.
Non, c'était une connerie. C'était
Jean-Paul Rouve, c'est dans un sketch.
C'est pas les tuches.
C'est pas les tuches.
Ouais.
Radio Beer Foot.
Alors.
Alors, tu veux parler de l'interview de Leonardo ce matin dans Le Parisien, que tu as lu attentivement, puisque ça y est, Leonardo apporte de la rigueur, fini les bêtises au PSG.
Oui, bravo, bravo. Alors moi, il m'avait semblé qu'on était déjà passé cette ère-là, dans cette ère dans cette ère-là. Parce que bon,
pas hier, pas une musique,
mais parce que depuis à peu près une trentaine d'années, quoi, qu'on s'était professionnalisé un peu et que maintenant on faisait attention à ce qu'on mangeait, à comment on dormait et arriver à l'heure et qu'il y avait même des amendes pour les mecs qui arrivaient en retard. Moi, ça a été fixé à Chelsea il y a à peu près 25 ans de ça et dans tous les clubs à peu près. Je suis très surpris qu'à Paris ça commence que l'année prochaine. J'ai lu cet article, j'ai quand même il y a des mecs qui paraît qu'ils sont déjà sur le terrain, les autres arrivent à peine au parking, quoi. Tu vois, donc c'est quand même énorme. Donc je me dis, est-ce que c'est un problème français où on a le droit de faire ce qu'on veut et puis comme on a un ancien entraîneur, il va nous dire où on peut bouffer n'importe quoi, notamment des pizzas. On va rester sur les pizzas un peu hier.
La pizza de Dugas.
La pizza de Dugas.
C'est bon les pizzas.
Mais je suis très inquiet pour Jean-Louis. Le football français, si le plus grand club à l'heure actuelle du football français se met à avoir une discipline à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant les années passées et qu'est-ce qui se passe vraiment dans les autres clubs? Je pose la question à Willy et je suis très inquiet. Ou alors je commence à avoir des explications sur les non-performances des clubs français dans les 20 dernières années.
On va déjà répondre à la question du PSG.
Ouais.
Leonardo, il arrive juste.
Il était là en 2011. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, il n'avait pas eu le temps de le faire alors.
Non, il n'a pas eu. Ben, il semblerait que.
Ah d'accord,
non.
Ok. Donc c'est juste maintenant.
C'est juste maintenant.
Avant, c'était pas une priorité.
C'est pas
donc ça l'est aujourd'hui.
C'est parce qu'il y en a un qui a dit quand même que c'était devenu une favela.
Il l'avait fait quand même en arrivant. On s'en souvient. Hein. Justement, il y avait des discours comme ça sur la diététique, les pizzas, etc. Après, peut-être que depuis son départ, ça s'est relâché.
Oui, peut-être. Après, c'est toujours pareil. C'est à un moment donné, il y a un cadre qui est mis en place. Et le cadre, c'est quand tu passes le cadre, c'est il y a sanction. Mais on avait l'impression qu'il n'y avait jamais de sanctions.
Et toi, tu l'as vu, toi, dans des clubs en France, des situations comme ça où les mecs font ce qu'ils veulent?
Un peu, ouais.
Ah ouais?
Un peu, ouais.
D'accord.
Et le problème des clubs français, la grosse problématique des clubs français, je veux pas parler des clubs, on va dire, de deuxième partie de tableau, où on va se focaliser sur les.
C'est peut-être même plus strict. Plus strict sur les clubs de deuxième moitié de tableau.
Mais on va se focaliser sur nos clubs qui éventuellement peuvent nous représenter en Europe. Donc se battre avec d'autres grands clubs européens. Hmm. Donc Marseille, Lyon, Paris.
Saint-Étienne,
ou j'en oublie, Bordeaux, mais bref. Et... Voilà. La problématique de ces clubs, mis à part peut-être Lyon, et encore, on l'a vu ces deux dernières saisons, il y avait quand même des manquements, c'est que l'institution club n'est pas assez forte. Mmh. On privilégie toujours le joueur à l'institution club. Mmh. Donc au bout d'un moment, quand tu as des jeunes joueurs qui arrivent, ou quand des joueurs qui arrivent de l'étranger et qui voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent au diapason. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les clubs français... pour des motifs économiques, mais je sais pas si c'est le bon raisonnement, vont toujours se dire, oui, mais le joueur, c'est notre valeur marchande, c'est notre, c'est notre capital.
Oui.
Donc, on y fait attention. Donc, à un moment donné, on peut pas trop y taper dessus s'il fait des boulettes ou, mais je pense que le calcul n'est pas bon. Parce que, en faisant ça, en fait, le joueur va continuer à faire ce qu'il veut. Ceux qui arrivent, puisqu'ils vont voir qu'il y en a un qui fait ce qu'il veut, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mmh. Et au bout d'un moment, c'est l'anarchie ou une pseudo-anarchie.
Mais là, c'est un cercle vicieux. Parce que le joueur, si tu lui montres plus de fermeté, il va dire « moi, je vais partir ailleurs ». Et à l'arrivée, même ta valeur marchande,
tu la perds. Non, mais t'as plein de trucs. Regarde Saint-Maximin. Le Saint-Maximin, il a... Allez, tiens, tout à l'heure, j'ai dit un gros mot. Donc, je vais plus en dire ce coup-là. Je vais juste dire il a chié dans les bottes de son entraîneur.
Pas un gros mot.
C'est pas grave. Il est sur le côté un match. Et après, il revient tranquille comme si de rien n'était. Un mois après, Ils perdent tout espoir de jouer la Coupe d'Europe en perdant lamentablement à domicile contre Caen, je crois. Et le mec, il a passé toute la nuit dans une boîte de nuit à Monaco, en se filmant et en mettant ça sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé après ?
Rien.
Bah, rien. Le mec a continué à jouer. Donc si jamais, par exemple, on ne va pas parler des joueurs étrangers qui arrivent, on va parler des jeunes du centre de formation, dans le club. Quand ils voient ça, eux, ils s'entendent dire par les directeurs de centre, si tu fais une boulette, t'es viré. Oui. Et les mecs, ils voient ça en haut, bah, ils se disent, bah, une fois que j'y suis, je fais pareil. Ouais. Et c'est notre problématique. On n'est pas conséquent.
La conclusion.
La conclusion, c'est que on se réveille en France, hein, et on met des amendes pour nous. C'était des amendes de 30 secondes où tu prenais ta race, hein, parce que c'était vraiment beaucoup d'argent. C'est pas parce que Neymar a l'autorisation de quelque chose que les autres peuvent le faire.
C'est-à-dire 30 secondes de retard, boum.
30 secondes amende. Ah ouais, mais amende, c'est 2000 € la minute, quoi. Il faut
ça. Les gars. Alors c'est peut-être faisable au PSG parce que les salaires sont
énorme. Non, mais tu
très,
fais
très élevé.
Mais nous, c'était pas 2000 € la minute.
Non, mais c'était très élevé. Mais attention, il y a un code du travail.
C'est ce que j'allais dire.
Il y a un code du travail.
Tu veux faire un règlement intérieur, ça existe,
un
règlement intérieur.
Mais un règlement intérieur ne prévaut pas sur le code du travail. Aujourd'hui, c'est la plus grosse amende que tu peux mettre à un joueur, c'est une semaine de salaire.
Voilà, très bien.
Le petit article juste en aparté sur Paredes, la sortie, ça me fait beaucoup rire parce que quand même, quand il avait failli venir,
il est venu.
Il est venu déjà. J'avais déjà dit qu'il ne fallait pas le faire venir, mais bon, voilà, maintenant il est déjà près de la sortie.
Non,
bravo Francky. Léo, si tu nous écoutes, appelle Francky pour le mercato.
Non, mais surtout bonjour à tous ceux qui avaient dit que je comprenais rien au foot. Merci beaucoup.
Ah, on les salue aussi.